C'est un nouveau jalon dans la campagne présidentielle. À 34 jours du premier tour, on connaît désormais la liste des candidats. Ils sont 12, validés par le Conseil constitutionnel dans l'ordre alphabétique Artaud, Dupont-Aignan, Hidalgo, Jadot, Lassalle, Macron, Mélenchon, Pécresse, Le Pen, Poutou, Roussel et Zemmour. Le vote est dans moins de 5 semaines et la campagne a décidément un tour particulier. Tout Covid, puis toute Ukraine maintenant. Vivons-nous une campagne empêchée pendant laquelle les grands choix collectifs ne pourront avoir lieu? Est-ce que la légitimité de celui ou celle qui gagnera le 24 avril s'en trouvera réduite? Mais la vie démocratique se limite-t-elle à une élection? Alors que cette liste est désormais complète, liste de candidats, et que le quinquennat a été marqué par la crise des Gilets jaunes et son appel à plus de démocratie, le professeur de droit constitutionnel Dominique Rousseau plaide dans un ouvrage pour une démocratie continue, une société où le peuple participerait aux décisions, pas seulement le jour de l'élection. Alors avec le grand débat, la convention citoyenne ou les propositions de nombreux candidats à davantage utiliser le référendum, est-ce que la France sait ou va s'approcher de ce modèle de démocratie continue? Comment mieux associer les citoyens aux décisions politiques? C'est notre sujet jusqu'à 13h45. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir pour vos questions. Bonjour Dominique Rousseau.
Bonjour.
Auteur de ce livre Cithèse pour la démocratie continue, publié chez Odile Jacob. Quelques questions sur cette campagne. D'abord, est-ce que le professeur de droit constitutionnel que vous êtes trouve que nous vivons une campagne empêchée au risque d'un vainqueur ou d'une vainqueur à la légitimité écornée?
Empêchée, non. Empêcher, non, vous l'avez dit, quels sont les problèmes qui sont dans l'actualité de la campagne? La question de la santé, avec le Covid, oui. Donc le service public, l'hôpital public, les soignants, les infirmières, question importante. Et puis l'autre sujet important, c'est tout simplement la démocratie ou la dictature, la guerre ou la paix. Or, c'est la première fois, je crois, dans une élection aussi importante que l'élection présidentielle, que la question, disons, internationale, ou géopolitique, devient centrale. Et je pense que c'est important pour notre campagne que les candidats intègrent cette dimension internationale, parce que la question du pouvoir d'achat, la question de l'alimentation, la question de la santé dépend évidemment du contexte international.
Donc à travers ces deux sujets, on parle de beaucoup de choses tout de même.
Comment?
À travers ces deux sujets.
Absolument. À travers ces sujets, on parle du quotidien des Français qui peuvent être modifiés selon qu'on est en dictature ou en démocratie, selon qu'on est en paix ou en guerre. Donc ce sont des sujets importants.
Si la situation devenait encore plus grave qu'elle ne l'est, que disent les textes? Est-ce que l'élection peut être reportée?
Alors, selon la Constitution, le report de la Constitution n'est possible...
Le report de l'élection?
Le report de l'élection n'est possible que pour des motifs tenant à la personne du candidat. Soit le candidat décède, soit le candidat est empêché. Par exemple, il est mis en examen, par exemple, il a une attaque cardiaque, par exemple, il a un accident. À ce moment-là, ce sont les seuls motifs possible de report de l'élection. La Constitution ne prévoit pas de report pour des événements comme ceux que l'on vit. À mon avis, ce serait dangereux, puisque ça soumettrait la tenue de l'élection à des événements extérieurs.
Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un débat entre les 12 candidats, ou c'est quelque chose de compliqué à organiser? Ça n'a jamais été fait avec un président sortant. Ça a été fait à une seule reprise à la dernière élection, où il y avait également 12 candidats à la télévision. Est-ce que ça vous semble utile pour la vie démocratique, disons, qu'il y ait ce débat aussi compliqué fut-il à organiser?
Je crois que si vous parlez de utile, je crois que le seul débat utile, c'est celui de l'entre-deux-tours. C'est celui que tout le monde attend, c'est celui qui a lieu régulièrement, oui. Sauf en 2002, où Jacques Chirac a refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen. Mais je pense que le véritable débat, le véritable enjeu utile pour le choix des citoyens, c'est le débat d'entre-deux-tours.
Alors venons-en aux questions des auditeurs et plus directement à votre livre. Une définition d'abord, Dominique Rousseau. Qu'est-ce que la démocratie continue, que vous appelez de vos voeux?
Alors, continue, ça veut dire tout simplement que la démocratie ne s'arrête pas, puisqu'elle continue, et elle ne s'arrête pas au vote. Le métier, entre guillemets, de citoyen doit continuer entre deux moments électoraux. Or, aujourd'hui, et depuis 1789, on a une démocratie qui s'arrête au vote. On demande aux citoyens... Vous savez, il y a une expression populaire, quand on vote, on dit « à qui tu donnes ta voix ?»
Oui.
À qui tu donnes ta voix? Alors, je donne ma voix à madame ou monsieur un tel. Et c'est eux qui vont parler. Et vous, vous allez devenir muet, puisque vous avez donné votre voix.
Ouais.
Eh bien, je pense que c'est ce cycle qui se termine. Et aujourd'hui, les citoyens, ils veulent plus donner leur voix. Ils veulent donner de leur voix. Ils veulent parler. Alors, sur les ronds-points, sur les places publiques, bon, ils veulent parler. Et l'idée de démocratie continue, c'est précisément la possibilité pour les citoyens de parler sur leur quotidien et d'intervenir dans la fabrication des politiques publiques locales, des politiques publiques nationales, d'intervenir dans la fabrication des lois. Parce que parfois, les élus font des propositions de loi ou votent des lois qui n'intéressent pas du tout les citoyens. Mmh. Et donc, il faut donner, entre deux moments électoraux, la possibilité aux citoyens d'intervenir dans la fabrication des règles de notre vie commune à partir de leur expérience. Il n'y a pas que les énarques. Il n'y a pas que le Conseil d'État qui sait comment, quelles règles il faut dans tel ou tel secteur. Il y a aussi les gens sur le terrain qui, par leur expérience, ont une compétence pour élaborer des politiques publiques. Je pense que si on demande, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'hôpital, si on demande aux infirmiers, si on demande aux médecins, si on demande aux aides-soignantes, quelles règles il faut pour que l'hôpital soit plus opérationnel,
ils ont un avis éclairé.
Voilà, ils sont certainement plus compétents que les fonctionnaires qui, dans leur bureau, imaginent un hôpital idéal.
Et j'ai appris en lisant votre livre que la déclaration de 1789 prévoit spécifiquement que les citoyens puissent personnellement participer à la fabrication des lois.
Absolument, vous avez raison, et c'est en faisant ce travail...
C'est l'article 6.
Article 6, parfait, j'ai plus rien à dire. Vous savez, le travail, souvent, on oublie de relire les textes fondamentaux. On dit, la France, c'est quoi? C'est le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Oui. Mais bon sang, lisons-la. Et vous avez un article 6 qui dit, effectivement, les citoyens participent personnellement ou par leurs représentants, à la fabrication de la volonté générale. Depuis 1789, on a zappé le personnellement. Et donc, on fonctionne sur, c'est les représentants qui font la loi. Non, moi, ce que je demande, c'est tout simplement de revenir à 1789 et de, d'activer, d'activer ce personnellement en trouvant les mécanismes, les procédures, les assemblées qui permettent aux citoyens personnellement de fabriquer la volonté générale.
Alors, plein de questions concrètes. Question de Jérôme, d'abord, au Standard. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour.
Alors vous nous dites, je suis pour une démocratie plus participative, mais, dites-vous, quel est le mais?
Alors, voilà, moi, en fait, je suis totalement pour une démocratie participative. Et en fait, j'habite dans les Bouches-du-Rhône. Et chez nous, déjà, au niveau, on va dire, de la démocratie représentative, on a quand même quelques soucis, quoi. C'est-à-dire que on a une myriade d'élus, que ce soit des députés, voire jusqu'au président de région, Monsieur Muselier, qui ont fait le mercato avant l'élection présidentielle. Donc, les gens ont voté pour des gens d'un bord, la plupart LR, chez nous, mais qui, finalement, sont partis chez En Marche. Donc, à un moment, il y a déjà, en termes de représentation, ils représentent quand même, en fait.
Oui.
Les gens ont été quelque part floués, ils n'ont pas voté pour ça. Donc, est-ce que déjà, ne serait-ce que sur l'existant, il n'y aurait pas possibilité d'avoir des leviers pour, parce qu'à un moment, si M. Muselier veut se représenter à la prochaine élection sous la étiquette En Marche, pas de souci, il fait ce qu'il veut.
Alors, c'est une situation très locale. Ce que vous dites aussi, c'est qu'au fond, il faut respecter les gens qui ont élu le peuple. C'est Dominique Rousseau, au fond, l'équilibre entre comment est-ce qu'on donne un peu la main au peuple, comment on organise cela, au fond?
Alors, il ne s'agit pas de supprimer l'élection, il ne s'agit pas de supprimer les élus. En revanche, il s'agit de mettre les élus sous le contrôle et la surveillance continue, des électeurs, des citoyens. Là encore, je vais revenir à la déclaration de 1789. Quand les types de 89 rédigent la déclaration, ils disent pourquoi. Il y a six lignes avant l'énoncé des droits, et ils disent quoi? Ils disent, on énonce les droits, liberté d'aller et venir, liberté d'opinion, etc. Pourquoi? D'abord, pour permettre, le verbe n'est pas de moi, mais d'eux, pour permettre aux citoyens de comparer ce que font les pouvoirs publics avec les droits qui sont énoncés. Et deuxièmement, pour permettre aux citoyens, à l'issue de cette comparaison, de réclamer. Les deux verbes ne sont pas de moi. Oui. C'est dans la déclaration. Comparer et réclamer. Autrement dit, ce que les hommes de 89 mettaient en marche, c'est la possibilité pour les citoyens de comparer, donc de regarder l'œil, hein, de regarder pour voir si les hommes politiques remplissent leur contrat, en quelque sorte, et si ils ne remplissent pas leur contrat, permettent aux citoyens de réclamer. Alors, de réclamer quoi ? De réclamer leur démission, de réclamer devant la justice, pensez par exemple à l'affaire du siècle, oui. Hein, où les citoyens réclament quoi ? Ils réclament que l'État respecte des engagements qu'il a pris lui-même, les accords de Paris.
Et alors concrètement, ça passe par quoi ? Ça passe par une chambre, par exemple, on remplace le Sénat par une chambre qui serait citoyenne et qui pourrait faire ce travail que vous évoquez ?
Alors le Sénat, non, puisque le Sénat représente les collectivités, collectivités territoriales, et je pense que dans un pays comme le nôtre, si on accentue, disons, la décentralisation de la France, si la France devient davantage girondine que jacobine, le Sénat est parfaitement légitime. L'Assemblée nationale aussi, elle représente la nation. Mais effectivement, ce qui manque, c'est la représentation, je dirais, de l'expérience citoyenne. Et ce que je propose dans mon bouquin, c'est de remplacer le Conseil économique, et social et environnemental par une assemblée que j'appelle sociale, peu importe le nom, où siégeraient des citoyens tirés au sort, qui auraient la charge d'organiser dans tous les territoires, pas simplement au niveau national, mais dans tous les territoires, des débats préalablement à la fabrication des lois.
Guy, au standard, bonjour Guy.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons. Question rapide, si vous le voulez bien.
Alors, moi, je voudrais simplement savoir l'opinion de votre interlocuteur concernant le non-travail qui a été fait au niveau de la Convention des citoyens pour le climat, sur laquelle on s'est largement assis, et savoir si on recommence le système, on n'a pas quelqu'un qui risque de s'asseoir sur les nouveaux travaux.
Et j'ajoute
comment on peut contrer ça ?
Merci beaucoup, et j'ajoute, Dominique Rousseau, qu'on s'est largement assis sur les cahiers de doléances dont on n'entend plus parler également.
J'allais l'évoquer.
Bon, il nous reste très peu de temps, je vous laisse répondre, Dominique Rousseau.
Alors, ma réponse va être courte, c'est-à-dire, ouais. Je pense qu'il faut institutionnaliser, il faut inscrire dans la Constitution cette procédure nouvelle des conventions de citoyens. Là, ça a été fait, excusez-moi l'expression, mais il faut aller vite, à l'arrache.
Oui.
Donc, un peu n'importe comment. Donc, je pense que l'idée est bonne, mais il ne faudrait pas que la mauvaise expérience de cette idée nous fasse abandonner cette procédure qui consiste à associer, plus qu'associer, à faire intervenir les citoyens dans la fabrication des lois. Mais pour ça, il faut que ça soit dans la Constitution, il faut que ça devienne une obligation constitutionnelle avec le respect d'un certain nombre de procédures.
Là aussi, question rapide, réponse rapide, plus de référendums ?
Plus de délibérations. Je pense que ce qui est important, je disais parler au début de notre entretien, oui. Ce que demandent les citoyens aujourd'hui, c'est de délibérer, de parler, d'argumenter, d'intervenir. Qu'à la fin de la délibération, il y a un référendum, pourquoi pas ? J'observe d'ailleurs que les citoyens qui ont participé à la Convention n'ont pas voulu de référendum parce que justement, ils avaient délibéré. Alors, une délibération avec à la fin un référendum, oui, mais un référendum sans délibération préalable, danger.
Merci Dominique Rousseau.
Merci à vous.
D'être venu dans les studios de France Inter. Cites pour la démocratie continue, c'est publié chez Odile Jacob.